La balance des paiements compte tous les échanges de monnaie entre les résidents d'un territoire économique et les acteurs économiques extérieurs à ce territoire qu'on appellera les non-résidents. Pour comprendre ce que c'est, imaginez un douanier qui se place à la frontière et enregistre les flux de monnaie qui sortent du territoire et ceux qui y entrent, en classant ces flux par le type d'opération qui a motivé le paiement. Il enregistre d'abord les achats de biens et services à l'étranger, c'est-à-dire les importations par les résidents du territoire qui se traduisent par une sortie de monnaie. Puis, il comptabilise les entrées de monnaie qui résultent des ventes de biens et services par les résidents du territoire à l'étranger, les exportations. Les entrées ne sont évidemment pas égales aux sorties. Le solde, la différence, exportation moins importation, on l'appelle techniquement la balance des transactions courantes ou balance courante. Ensuite, il observe les mouvements de monnaie qui résultent de l'achat et de la vente de titres. Il peut d'ailleurs faire une distinction entre les titres, en particulier entre les investissements directs et les titres financiers. Pourquoi cette distinction? C'est que les titres financiers sont beaucoup plus liquides et donc susceptibles d'aller et venir d'un territoire à l'autre très rapide. Les investissements directs et les achats de titres par les résidents du territoire à l'étranger se traduisent par des sorties de monnaie du territoire. Et réciproquement, les investissements directs dans le territoire et les achats de titres émis dans le territoire par des non-résidents se traduisent par une entrée de monnaie dans le territoire. À nouveau, nous avons ici une balance, entrée de capitaux moins sortie de capitaux, qui est positive ou négative et qu'on appellera la balance des capitaux. Enfin, certains résidents du territoire, dont la Banque centrale, possèdent des comptes courants, c'est-à-dire de la monnaie, à l'étranger. Ces comptes, détenus dans des banques, sont libellés en devises étrangères, par exemple en dollars, si on est résident de la zone euro. Virer de la monnaie sur ces comptes, c'est donc une sortie de monnaie. Tirer sur ces comptes, c'est une entrée de monnaie. Ici encore, nous pouvons calculer une balance entrée moins sortie, qui est la balance des mouvements monétaires, qu'on appelle techniquement la balance des capitaux monétaires, dont font partie les réserves de la Banque centrale. Les réserves de la Banque centrale sont donc des comptes courants, qui sont d'ailleurs rémunérés, en dollars dans des banques américaines, mais aussi bien en livres dans des banques anglaises, etc. Des comptes dans des monnaies qu'on appelle les liquidités internationales, et qui sont des monnaies nationales, mais librement convertibles entre elles, et qui peuvent acheter toutes les autres monnaies dans le monde, le dollar, l'euro. La balance des paiements comptabilise donc les entrées et les sorties de monnaie d'un territoire et les organise en trois grandes catégories. Les opérations de paiement 1, des biens et services, dont la balance est la balance courante, 2, des titres, dont la balance est la balance des capitaux, et les mouvements purement monétaires. Voici deux exemples de balance des paiements. Dans la première, nous avons un déficit des transactions courantes. Les importations sont supérieures aux exportations. Mais ce déficit est largement compensé par un excédent de la balance des capitaux, puisque les investissements directs et les achats de titres des non-résidents sont supérieurs aux sorties de capitaux par investissement et achat de titres des résidents. Par conséquent, à ce stade, les entrées de monnaie dans le territoire ont été supérieures aux sorties. Le solde se traduit donc par une sortie de monnaie sous forme d'une augmentation des réserves en monnaie de certains résidents ou de la Banque centrale. Réserves, je le répète, détenues sous forme de comptes courants rémunérés en devises à l'étranger. Dans l'autre schéma, nous avons toujours un déficit de la balance courante, mais cette fois, il n'est pas compensé par la balance des capitaux, qui au contraire est elle-même en déficit. Si bien qu'à ce stade, les sorties de monnaie seraient supérieures aux entrées. Impossible, il faut donc que des entrées supplémentaires aient été fournies par la diminution des comptes courants des résidents à l'étranger, dont les réserves de la banque centrale. La chose importante à retenir, c'est qu'une balance des paiements est toujours équilibrée. C'est-à-dire que les mouvements de capitaux, y compris monétaires, compensent exactement les mouvements des transactions courantes. Alors, pour bien le comprendre, nous allons prendre un exemple simplifié, avec seulement deux territoires, les États-Unis et l'Europe. Aux États-Unis, la monnaie est le dollar, en Europe, l'euro. Mais les résidents européens acceptent le dollar en paiement des achats que l'on fait en Europe, puisque le dollar est librement convertible en euros. Supposons qu'initialement, au 30 décembre, la balance soit équilibrée et que se produit le 31 décembre une transaction supplémentaire de nature commerciale. Aux États-Unis, une entreprise demande un crédit de 1 million de dollars à sa banque et s'en sert pour acheter pour 1 million de dollars de champagne à un producteur français, lequel dépose ce million de dollars à sa banque en lui demandant de bien vouloir le transformer en euros. Que fait la banque? Eh bien, elle présente immédiatement ce chèque de 1 million de dollars à sa propre banque aux États-Unis en demandant qu'on crédite son compte en dollars, qui est le compte rémunéré sur lequel elle place ses réserves. Et vous voyez donc que l'entrée de 1 million de dollars s'est immédiatement traduite par une sortie de 1 million de dollars et la balance reste équilibrée. Ce qu'il faut retenir à ce stade est ceci. Un pays qui est en excédent de balance courante, comme, durant les dernières décennies, la Chine, l'Allemagne ou l'Arabie Saoudite, un tel pays est un pays qui exporte plus qu'il n'importe. Par conséquent, il consomme au sens de la consommation intérieure totale, c'est-à-dire la consommation finale des ménages, l'investissement des entreprises et la dépense publique. Donc il consomme moins qu'il ne produit et il exporte la différence. Ce pays est donc une fourmi. Les revenus distribués dans le pays, qui sont égaux à la production intérieure, le PIB, sont donc supérieurs aux revenus dépensés, puisque la consommation est inférieure à la production, le PIB. Il existe donc dans ce pays une épargne excédentaire, mais excédentaire au sens où elle ne trouve pas à s'investir dans le pays lui-même. Donc, cette épargne est nécessairement exportée dans les pays qui, eux, sont en déficit courant et qui doivent importer pour financer ce déficit courant exactement le même montant de capitaux, y compris sous forme de capitaux monétaires. C'est exactement ce qu'on a vu dans l'exemple ci-dessus. 1 million supplémentaire d'exportation de champagne engendre 1 million de revenus supplémentaires en Europe. Ce million est épargné car la consommation finale en Europe n'est pas affectée. Et donc, ce million est immédiatement réexporté sous forme de capitaux monétaires par la banque où le producteur de champagne les a déposés. Mais réciproquement, un pays qui est en déficit de balance courante, comme par exemple les États-Unis depuis des décennies et la France assez régulièrement, un tel pays a une consommation intérieure supérieure à sa production, son PIB. Et par conséquent, il doit importer de l'épargne constituée dans les territoires en excédent courant pour financer exactement son déficit courant. Ce pays est une cigale. Eh bien, au plan mondial, les fourmis prêtent aux cigales pour que les cigales puissent acheter les excédents de production des fourmis. Le monde économique est en effet clos.